Le gouvernement d'Édouard Philippe a démissionné ce matin, laissant entière l'incertitude sur le choix par Emmanuel Macron du prochain locataire de Matignon. Seule certitude, changer d'équipe gouvernementale pour impulser un nouvel élan après un revers aux élections municipales et généralement un classique d'autant plus prévisible qu'Emmanuel Macron lui-même avait déclaré il y a quelques semaines déjà vouloir se réinventer. Le chef de l'État qui, dans un entretien accordé à la presse régionale, assure par ailleurs vouloir relancer dès cet été sa réforme des retraites par de nouvelles concertation. Et puis, le groupe Air France a officialisé ce matin la suppression de plus de 7500 postes d'ici fin 2022. Invité de ce journal dans une quinzaine de minutes, Augustin de Romanet, président d'Aéroports de Paris. L'été 2020 qui s'annonce restera-t-il dans les livres d'histoire comme un tournant de la présidence d'Emmanuel Macron? Quoi qu'il en soit, dos au mur après les résultats désastreux de son parti au second tour des municipales, éclipsé dans les sondages par l'ombre de son premier ministre, l'ex-trublion du paysage politique, celui qui promettait de transformer la France après avoir fait exploser le système des partis dominants, n'a, semble-t-il, d'autre choix aujourd'hui pour redonner donc de l'éclat à sa présidence et consolider sa stature de réformateur que de trouver sinon un nouveau chemin, du moins un nouvel élan. Et c'est dans ce contexte qu'on a appris ce matin la démission du gouvernement. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors un nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochaines heures, nous dit-on. En vertu de la Constitution, le Président peut décider soit de reconduire le maire du Havre, soit de le remplacer. Et a priori, Stéphane, il semble qu'on se dirige plutôt vers la deuxième option.
Oui, tout indique qu'Édouard Philippe ne sera pas reconduit dans ses fonctions à Matignon. Il y a d'abord l'annulation surprise au tout dernier moment ce matin du Conseil des ministres qui devait se tenir à 10h. Puis l'annonce précipité de la démission du Premier ministre. Quelques minutes plus tard, un communiqué de l'Élysée annonce qu'un nouveau Premier ministre sera nommé dans les heures qui viennent. Jusque-là, on ne sait pas bien interpréter le sens de ce terme « nouveau ». Mais pratiquement au même moment, un très proche d'Édouard Philippe, Gilles Boyer, se dit fier sur Twitter des 1145 jours qu'a passé son ami à Matignon et remercie Emmanuel Macron de lui avoir fait confiance. Puis un autre message déposé toujours sur Twitter par la députée La République En Marche de la Manche, Sonia Crimi, remercie Édouard Philippe pour le travail effectué et lui souhaite un bon retour au Havre. Pour finir, nos confrères de France Info affirment avoir eu confirmation par un proche du Premier ministre à Matignon qu'il quitte bel et bien ses fonctions. On attend donc désormais la nomination du nouveau ou de la nouvelle Premier ou Première ministre. Un nom circule depuis plusieurs jours, celui de l'actuel ministre des Armées, Florence Parly. On parle aussi de Jean-Yves Le Drian, de Jean-Louis Borloo, de Jean Castex. Il convient de rester extrêmement prudent sur le nom du successeur. C'est toujours très incertain et très mouvant jusqu'au tout dernier moment, prévient un conseiller ministériel rodé à l'exercice. Et le seul qui a la clé de l'édifice, c'est Emmanuel Macron.
Et évidemment, avec cette démission, une question se pose. Stéphane, Édouard Philippe était-il devenu trop encombrant, accusé par ses détracteurs d'assécher la radicalité réformatrice d'Emmanuel Macron? Le Premier ministre empêchait-il le président de se réinventer?
Si on examine l'ensemble des données, l'équation du maintien ou du départ d'Édouard Philippe n'était pas simple à résoudre. Édouard Philippe, lui, a tout intérêt à partir. Il sort renforcé de la crise de la Covid-19 et bénéficie d'une forte popularité dans l'opinion, bien plus forte que celle du président. Et il vient d'être réélu avec une forte majorité au municipal à la tête de la ville du Havre. Il n'a donc pas grand-chose à espérer de plus en termes de gains politiques en restant Premier ministre. Au contraire, il n'y a que des coups à prendre. Pour Emmanuel Macron, c'est plus compliqué. Il avait à la fois intérêt à le garder et intérêt à s'en séparer. En gardant Édouard Philippe, il conservait à ses côtés quelqu'un qui lui fait de l'ombre en termes de popularité et il ne donnait pas vraiment l'impression, vous le disiez, de se réinventer, alors qu'il a indiqué, Emmanuel Macron, il y a quelques mois, que c'est précisément ce qu'il veut faire, tirer les leçons de la crise sanitaire et se réinventer. S'en séparer n'apparaissait pas non plus comme une bonne option. Il donne l'impression de sanctionner un Premier ministre qui, aux yeux des Français, a plutôt bien géré la crise sanitaire et renvoie l'image de quelqu'un de compétent. Et puis, en le sortant du jeu politique, il en fait un potentiel rival pour la suite. Mais c'est bien souvent ce qui se passe en politique. Les responsables publics ont rarement le choix entre une bonne et une mauvaise solution, mais bien souvent entre deux mauvaises options.
Merci Stéphane Robert. Alors il se trouve que l'annonce de la démission ce matin du gouvernement intervient quelques heures seulement après la publication dans la presse régionale d'un entretien accordé par Emmanuel Macron dans lequel le chef de l'État précise ses priorités pour la reconstruction à la fois économique, sociale, environnementale de la France. Chaque mot y est évidemment pesé, indépendance, reconstruction, réconciliation. Certains ont même été retirés à la question de savoir si sa relation avec Édouard Philippe était de l'histoire ancienne. Le chef de l'État a répondu au contraire. contraire, deux mots interprétés par beaucoup comme un aveu que le Premier ministre conserverait son poste, sauf qu'un peu plus tard, l'interview a finalement été expurgée de cette précision et pour cause. Enfin, toujours dans cet entretien, le chef de l'État reconnaît avoir sa part de maladresse s'agissant de certaines réformes, tout en répétant à qui veut bien l'entendre que le cap sur lequel il s'est engagé reste le bon. En l'occurrence, pas question notamment de renoncer à la réforme des retraites, même si Annabelle Grelier, le président, confirme vouloir la remettre en chantier dès cet été.
Ce serait une erreur de mettre cette réforme à la poubelle, a déclaré hier Emmanuel Macron, même s'il reconnaît sa part de maladresse en considérant par le passé qu'il fallait aller vite sur certaines réformes. Pour autant, le président ne compte pas ralentir et l'idée de remettre la réforme des retraites sur le tapis dès cet été a fait bondir le patron de la CFDT, Laurent Berger.
On va pas se remettre à se foutre sur la gueule sur la question des retraites dans cette période. Je le redis très clairement, la CFDT continue d'être pour un système universel des retraites. Parce que ça nous semble beaucoup plus juste, notamment pour les salariés les moins bien dotés pendant leur carrière professionnelle. Donc on peut continuer à discuter du principe et voir quand est-ce que ça pourrait s'appliquer. Mais sûrement pas de le faire cet été, sous l'angle en plus de l'équilibre global des régimes des retraites.
Emmanuel Macron en effet veut rouvrir au plus vite une concertation sur les équilibres financiers. Maintien ou non de l'âge pivot à 64 ans, lui serait plutôt favorable à un allongement de la durée de cotisation, piste jusqu'ici écartée. Est-ce de la provocation, s'interroge Philippe Martinez de la CGT.
Le président de la République joue avec le feu. Pourquoi jeter de l'huile sur le feu au moment où il faut parler emploi, au moment où on a des tas de problèmes à régler? Tout le monde sait que cette réforme a donné lieu à des mobilisations. Est-ce qu'on veut repartir là-dedans ou est-ce qu'on calme le jeu? On va essayer de regarder les choses autrement. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? La priorité, c'est la lutte pour l'emploi. L'emploi des jeunes.
Les syndicats semblent aujourd'hui tous sur la même ligne. Yves Verrier de Force Ouvrière propose même une lettre commune qui serait envoyée au président pour refuser de discuter de la réforme des retraites cet été.
Les nouveaux conseils municipaux dans les quelques 5000 communes qui ont voté dimanche dernier seront mis en place à partir d'aujourd'hui, sauf à Marseille, seule ville de France à ne pas encore connaître son maire. La cité phocéenne va devoir jouer une sorte de troisième tour demain lors du premier conseil municipal. Ce matin, la sénatrice ex-PS Samia Ghali a abattu ses cartes pour compter sur son soutien. La candidate de la gauche, Michèle Rubirola, devra lui offrir le poste de première adjointe. Et puis, à droite, le président des Républicains, Christian Jacob, a appelé chacun au sens des responsabilités et à l'union après l'annonce hier d'une candidature LR dissidente à la suite des négociations complexes pour réunir une majorité. Poussé par la crise du Covid-19 à accélérer une restructuration anticipée, le groupe Air France, lequel a pourtant reçu de l'État une aide de 7 milliards d'euros, dévoile depuis ce matin son plan de restructuration qui prévoit, je vous le rappelle, la suppression de plus de 7500 postes d'ici la fin 2022. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors pour l'essentiel, il devrait s'agir de départs naturels non remplacés, mais aussi de départs volontaires, même si Hakim, des licenciements dans le court courrier notamment ne sont pas exclus.
Oui, proportionnellement, c'est la filière régionale d'Air France, HOP, qui paye le plus lourd tribut avec 1022 suppressions de postes sur 2400 salariés, ce qui représente 40% des effectifs d'HOP. Dans le détail, cela donne donc 328 pilotes en moins, ce qui correspond à la moitié de ses effectifs pilotes, alors que chez sa grande sœur Air France, par exemple, la baisse du nombre de pilotes ne sera entre guillemets que de 10%. C'est dire si la vague de licenciement sera très importante. Chez les hôtesses et stewards, les PNC d'HOP, cette fois, 286 emplois seront supprimés et 291 à la maintenance, ainsi que 119 salariés dans les services support et administratifs. Résultat, deux sites de maintenance devraient fermer d'HOP, notamment à Morlaix et Lille, ce qui inquiète fortement les élus, car la compagnie contribue fortement à l'activité économique des régions. Les salariés rassemblés au siège de la compagnie à Nantes dénoncent également le fait que l'activité va être en grande partie reprise par Transavia, la filiale low-cost d'Air France. Enfin, du côté de la maison mère, Air France, cette fois, 6600 emplois seront supprimés, dont la moitié seront des départs en retraite, avec 4500 postes en moins pour les personnels au sol qui payent un lourd tribut, comme souvent chez Air France. Rappelons Thomas que la compagnie Air France en est déjà à son 7e plan social depuis 11 ans.
Merci Hakim Kasmi. Je précise que dans une dizaine de minutes, nous recevrons Augustin de Romanet, PDG d'Aéroport de Paris. Et puis le nom du nouveau Premier ministre est désormais connu, nous venons de l'apprendre. Jean Castex, 55 ans, haut fonctionnaire issu de l'UMP. Il avait notamment été conseiller aux affaires sociales au cabinet du président Nicolas Sarkozy, puis secrétaire général adjoint de l'Élysée jusqu'à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Lors des dernières municipales, il avait été réélu dès le premier tour maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales, poste qu'il occupait depuis 2008. Il est l'un des premiers de sa génération à avoir gagné la Syrie au service du terrorisme et l'un des rares individus encore vivants à en être revenu ce matin devant la cour d'assises de Paris. L'accusation a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Tyler Villus, émir du groupe État islamique. Le djihadiste français est accusé de crimes commis en Syrie de 2013 à 2015. L'avocat général a par ailleurs demandé d'assortir cette peine de la période de sûreté maximale. Compte rendu d'audience ce matin signé Antoine Marette.
L'incarcération à perpétuité est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Elle doit être assortie de la période de sûreté maximale qui est de 22 ans. Hélas, répète l'avocat général, qui ne croit pas à la déradicalisation de Tyler Villus. Quand on dissipe le rideau de fumée, on ne voit plus que les cadavres. Quand on sort de l'hypnose dans laquelle sa logorée nous plonge, on n'entend plus qu'un silence de mort. Le réquisitoire de Guillaume Michelin aura duré 3 heures, interrompu hier pour cause de fièvre. La seconde partie de ce matin aura été nette et précise. Tyler Villus y est décrit comme un dissimulateur. La duperie est un entraînement de toute une vie chez Tyler Villus. Pour l'avocat général, aucun doute, il est revenu en Europe pour commettre des attentats et son comportement irréprochable en prison, il est décrit comme un détenu modèle par ses co-détenus et par certains membres de l'administration pénitentiaire. Tout ceci accrédite l'idée qu'il reste un émir charismatique, qu'il est doué pour la dissimulation. Mais la vraie nature de Tyler Villus, on la voit au moment de l'assassinat filmé de 2 Syriens en pleine rue. Il est sur la même ligne que celui qui donne le top départ de l'exécution. Il porte un talkie-walkie, il lève le bras après la mise à mort. Tout indique qu'il n'est pas un simple spectateur de la scène, mais qu'il y participe en la sécurisant. L'avocat général conclut « Toute cette audience a été une douleur. Il nous revient de mettre un terme définitif à ce carnage. »
Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Du service politique, vous venez nous rejoindre, on l'a dit. Donc c'est donc Jean Castex, 55 ans, qui a été nommé Premier ministre.
Oui, et Jean Castex, c'est un des noms qui s'est imposé en fait pendant la crise du coronavirus. C'est celui qu'on a surnommé Monsieur Déconfinement. Et c'est un haut fonctionnaire qui a fait Sciences Po, qui a fait l'ENA, qui est maire d'une petite ville des Pyrénées-Orientales, Prades. Il a été réélu d'ailleurs largement dès le premier tour, plus de 70% des voix. Alors, c'est un peu, quelque part, quelqu'un qui était pressenti, ça fait partie des noms qui avaient été cités. C'est un profil, finalement, qui, a priori, ne va pas faire d'ombre à Emmanuel Macron. C'est pas quelqu'un qu'on connaît très bien, Jean Castex. Ça peut aussi paraître un petit peu ancien monde. On le disait, Énarc, Sciences Po. Il peut devenir, en quelque sorte, l'espèce de premier collaborateur du président de la République et, du coup, laisser à Emmanuel Macron l'attitude pour faire campagne pour 2022. Parce que on en est là. C'est-à-dire qu'on est à 2 ans de la présidentielle. Il fallait quelqu'un qui, peut-être, fasse un peu moins d'ombre au président de la République que ne pouvait en faire Édouard Philippe.
Merci Rosalie Lafarge. Depuis ce matin, ce sont quelques 300 personnalités du monde économique, politique, social, académique qui sont réunies à la Maison de la Radio pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, rebaptisées pour l'occasion Aix en Seine. 3 jours de débat avec, pour cette 20e édition, une thématique à la mode, agir face au dérèglement du monde. L'occasion toute trouvée de tracer des perspectives pour l'après-Covid. Et pour en parler avec nous, invité de ce journal, l'un des participants donc à ces rencontres, Augustin de Romanet, PDG d'Aéroport de Paris. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour monsieur.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Une première question toutefois avant d'aborder donc la thématique de ces rencontres. Nous venons d'assister à une semaine noire pour l'aéronautique. 7600 suppressions de postes chez Air France, 15 000 chez Airbus, dont 5 000 en France. Selon vous, aurait-on pu procéder autrement ?
Bien sûr, je pense qu'il aurait été tout à fait possible d'être irresponsable et de supprimer encore beaucoup, beaucoup plus d'emplois. Si on avait supprimé des emplois à proportion de la crise que subit l'aéronautique, ça n'aurait pas été ces chiffres dont je suis sûr que chacune des directions a essayé de limiter au maximum les montants. Songez que dans cette crise, selon l'IATA, 100 milliards de dollars de pertes sur 2 ans, c'est-à-dire 3 fois plus que la crise financière de 2008 et 2009. Donc, ce qui est clair, c'est que, d'une part, la crise que subit le monde aérien est exceptionnelle. D'autre part, vous voyez que la visibilité est très faible, puisque non seulement les comportements des voyageurs, notamment d'affaires, vont probablement se modifier, non seulement le tourisme va reprendre tout doucement, mais en plus, et en particulier dans notre pays, vous avez une espèce d'aviation bashing qui grimpe et qui fait que aujourd'hui, on est presque coupable de prendre l'avion. Donc malheureusement, la visibilité, le choc est très fort, la visibilité est modeste. Et je sais que mes collègues d'Airbus, mes collègues d'Air France, tout comme votre serviteur, font le maximum pour discuter avec les organisations syndicales des modalités qui minimisent les suppressions d'emplois et en tout cas les départs contraints.
Question d'Anne-Laure Jumet.
Via notamment donc ce chômage partiel de longue durée hein, qui fait partie du plan aéronautique annoncé par le président. Vous-même, Augustin de Romanet, vous avez dit devoir procéder à des ajustements de même nature que les compagnies aériennes. On sera sur quel étiage ?
C'est une discussion que nous aurons avec les organisations syndicales au cours du mois de juillet, donc je suis incapable de vous donner un montant et un niveau. La seule chose que je puisse vous dire dans la poursuite de ce que je vous ai dit au début de cet entretien, c'est que mon objectif et ma fierté sera de négocier avec les organisations syndicales le plus possible, de façon à aboutir, dans l'idéal, à éviter les départs contraints. Je ne sais pas si nous y arriverons et c'est une co-responsabilité qui va nous conduire à réserver entre guillemets la primeur des informations à nos collaborateurs.
Justement, vous intervenez hein, lors de ces rencontres économiques d'Aix-en-Seine sur la thématique du chômage. Comment faire face ? Quelles solutions allez-vous porter ? Et parmi ces outils dont vous parliez à l'instant, est-ce que ce dispositif de chômage partiel de longue durée est un outil intéressant pour limiter les plans sociaux, justement ?
Oui, ça fait partie des éléments qui sont à notre disposition. En résumé, puisque je porterai des idées simples, nous avons très peu de temps pour nous exprimer, mais je dirais qu'à court terme, il faut que les entreprises utilisent au maximum les outils qui leur sont donnés dans le cadre d'une politique contractuelle pour éviter les départs contraints. Le Code du travail a été extrêmement amélioré ces 10 dernières années et nous avons aujourd'hui de très nombreux dispositifs. Vous avez d'abord l'accord du type accord de performance collective qui permet, dès lors que 50% des syndicats en sont d'accord, de modifier sensiblement des éléments du contrat de travail qui permettent de réduire les charges de l'entreprise et d'éviter des suppressions d'emplois, vous avez des cadres de rupture conventionnelle collective, vous avez également effectivement le chômage de longue durée qui nécessite aussi un accord avec les organisations syndicales. Donc le premier message que je porterai, c'est d'appeler les chefs d'entreprise et les syndicats de salariés à utiliser au maximum les outils qui sont à notre disposition.
Vous avez conscience, Augustin de Romanet, que ça peut choquer aussi hein, quand on voit que 15 milliards d'euros ont été injectés pour le secteur aéronautique et qu'il y a quand même tous ces plans de suppression de postes.
Si vous voulez, si vous regardez bien les 15 milliards d'euros, en réalité, il y en a déjà 7 qui sont recyclage d'avance qui ont été constatés à Air France. En fait, en argent frais, il y a peut-être 1 ou 2 milliards d'euros qui a été apporté. Donc, les aides qui ont été apportées au secteur aéronautique, et je précise qu'elles ne concernent pas les aéroports, sont d'une ampleur relativement modeste par rapport aux pertes que vont connaître les compagnies aériennes et les constructeurs d'avions. Ça n'est pas du tout à la hauteur du choc qui est aujourd'hui connu.
Au cœur de ces rencontres également, Augustin de Romanet, les questions environnementales, la lutte contre le réchauffement climatique. Votre secteur vit une profonde transformation. On parle de plus en plus d'avions moins gourmands en carburant, d'avions à hydrogène. Mais est-ce que les efforts en la matière ne vont pas être retardés justement du fait de la crise ?
Non, je ne crois pas. La crise aujourd'hui, elle est une espèce d'apéritif ou d'antipastille de ce que serait un monde avec un réchauffement climatique au-delà de 2,5 ou 3 degrés. Donc, il est la prise de conscience du fait que la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas négociable, je crois qu'elle est totalement acquise. Ce qui est très important, c'est de garder un minimum de mesures et de ne pas faire du transport aérien le bouc émissaire de tous les problèmes de la lutte contre le réchauffement climatique. Le transport aérien doit prendre toute sa part, mais de grâce, ne le clouons pas au pilori au motif que ça donnerait bonne conscience. Je crois que chacun d'entre nous doit faire des efforts et je voudrais savoir quel est le nombre d'avions qui correspondent à la fermeture de la centrale de Fessenheim, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut raison garder, il faut être factuel, objectif. Le transport aérien, c'est 2,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Il a entrepris un programme de recherche qui doit conduire à ce que, d'ici 2035, nous ayons des avions qui soient propulsés par l'hydrogène et pour les courts courriers, par l'électricité. Et d'ici là, je crois qu'il faut, entre guillemets, laisser un tout petit peu le transport aérien le temps de s'adapter.
Merci Augustin de Romanet, PDG d'Aéroports de Paris, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne-Laure Jumet. Et puis je rappelle donc la principale information de ce journal. Après la démission en début de matinée du gouvernement d'Édouard Philippe, Jean Castex, haut fonctionnaire et élu local, a été nommé pour lui succéder à Matignon. On termine avec un mot de météo. Le temps de cet après-midi sera orageux sur l'extrême sud-est du pays. Globalement calme et sec partout ailleurs. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.